Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. Bienvenue dans cette édition hors série de Mashup. Ça s'appelle Tech Up et l'objectif, c'est de traiter de sujets à la croisée des enjeux de société et du numérique. C'est un stream mensuel en partenariat avec Orange. Je vous laisse écouter tout ça et puis n'oubliez pas donc, Mashup, c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch et chaque semaine en podcast. Alors abonnez-vous pour ne rater aucune rediffusion. On va parler désormais de notre addiction, je dis notre parce que je m'inclus honnêtement dedans, on va pouvoir en parler ensemble, notre addiction aux réseaux sociaux. Alors il y a quelques jours, Barack Obama a appelé à réguler les réseaux sociaux qui selon lui sont responsables de l'affaiblissement des démocraties. Il accuse notamment les grandes plateformes, donc Facebook, Twitter, etc., d'avoir largement amplifié, je cite, les pires instincts de l'humanité. Il a donc largement critiqué le modèle économique des plateformes comme Facebook ou encore YouTube et la publicité ciblée d'ailleurs à grande échelle qui repose justement sur cette économie de l'attention. On va peut-être aussi parler, on en parle sur Twitch, ça a dit dans le chat, effectivement on en parle sur Twitch et ça va être l'occasion d'ailleurs je pense d'en pouvoir en discuter, voir si ces mécanismes d'économie de l'attention sont aussi peut-être visibles et disponibles sur Twitch, vous allez pouvoir me le dire dans le chat. On va donc parler aujourd'hui d'économie de l'attention pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est autant accro et ce que vaut d'ailleurs notre attention derrière tout ça. Et pour cela, je suis accompagné de Sandrine Duverne. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Première sur Twitch, je crois.
Eh bah oui.
Eh bah bienvenue. Bah c'est super. Super ravi que tu sois ici. Tu es consultante, chercheuse en neurosciences cognitives, experte des capacités de prise de décision et d'adaptation. Tu travailles sur la neuropédagogie pour faciliter les apprentissages et la communication. Et forcément, ce sujet de l'économie de l'attention, il a un lien avec ton travail. On va pouvoir en parler ensemble dans quelques instants. À ma gauche, Florian Forestier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Tu es philosophe, auteur notamment de deux ouvrages que j'ai ici. D'abord, un roman qui est paru récemment, c'était en 2021, qui s'appelle Basculer, aux éditions Belfond. Et par ailleurs, tu as été aussi l'auteur de cet ouvrage, qui n'est pas un roman, Désubériser, reprendre le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, désubériser, pour ceux qui voudraient comprendre là, en deux mots ce que ça veut dire?
Désubériser, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, c'est avoir un modèle moins avoir un usage moins prédateur des technologies de relations sociales, alors pas seulement sociales, là on en a surtout parlé dans le monde du travail, mais ça peut être étendu au domaine de l'attention en général.
On parle d'économie de l'attention, je pense qu'il faut, comme dans tout bon raisonnement, définir les termes avant de rentrer dans le débat et les discussions après. Économie de l'attention, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si Florent, tu veux essayer de définir ça, l'économie de l'attention.
Je vais essayer de me lancer.
On va essayer.
On peut faire ça en plusieurs étapes. Il y a quelque chose qui est très ancien, c'est que l'attention, ça a une valeur économique. De fait, pour vendre un produit, j'ai envie de dire presque de tout temps, on a besoin d'attirer l'attention dessus. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est que ça ne soit pas simplement important pour le vendre, mais que ça soit totalement essentiel. On est dans un monde dans lequel il y a une telle surabondance d'informations et de produits que si on n'a pas les moyens de capter l'attention, si on n'a pas les moyens de rendre visible ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut vendre, ben, ça va tomber dans un trou. Et l'économie de l'attention, c'est un peu ce nouveau monde dans lequel la capacité à rendre quelque chose visible, la capacité à capter l'attention, c'est le goulot d'étranglement. C'est le cœur essentiel du réacteur économique.
Et pour bien comprendre du coup, quand on parle d'économie et ce qu'on peut vendre, dans le cas des réseaux sociaux, dans le cas des plateformes, qu'est-ce qu'on vend? Que vendent les plateformes au final en nous gardant sur leur plateforme?
Et justement, les plateformes, c'est là où elles sont très fortes. C'est qu'elles n'attirent pas notre attention, c'est elles qui maîtrisent la capacité de l'attirer. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui veulent attirer notre attention sont obligés de passer par elles. Elles tiennent les tuyaux, donc elles nous tiennent captifs. Et ensuite, elle monétise notre attention.
Et pour bien comprendre, et quand on va parler de plateforme, on peut aussi parler des réseaux sociaux. Plateforme, c'est peut-être un terme plus large, parce qu'un Netflix, c'est une plateforme. Ce n'est pas forcément un réseau social, ça ne l'aime pas, même d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est une plateforme. Donc pour ceux qui se posaient la question de ce qu'on entendait par plateforme, c'est bien tout ça. Des exemples un peu de mécanismes qui peuvent être mis en place par ces plateformes pour capter cette attention et essayer de la retenir. Est-ce que tu as quelques exemples pour qu'on cerne un peu de quoi on parle là-dessus?
Ah, je vais insister sur deux choses. Bon, d'une part, assez simple, le but d'une plateforme, disons d'un réseau social, de Facebook, c'est qu'on reste le plus possible dessus. Donc, c'est qu'une fois qu'on est dessus, on n'en parte pas. Et donc, c'est fait, même le menu déroulant, tout est fait de telle façon qu'il y a de l'information qui vient à l'infini. La page n'arrête pas de défiler. C'est comme si, et ça utilise un peu une tendance de notre esprit à vouloir savoir la suite. Premièrement. Deuxièmement, ça utilise, ça nous envoie des alertes en permanence. Parce que les alertes, on a tendance à y répondre avant de réfléchir. Et puis troisièmement, ça veut pas seulement qu'on reste, mais ça veut qu'on interagisse. C'est ce qu'on appelle de l'engagement utilisateur. Donc ça nous montre des choses qui vont nous faire réagir. Mais ce qui va nous faire réagir, ouais, c'est pas forcément positif. Si ça nous énerve, c'est bien. Parce que si ça nous énerve, on y va.
Ça fait aussi réagir. Alors, dans les exemples de choses qui viennent souvent pour capter cette attention-là, on peut parler des trois petits points lorsqu'une personne est en train d'écrire pour nous forcer un peu à rester sur notre téléphone, parce qu'on sait qu'une réponse arrive. Il y a la question typiquement des stories. C'est un format sur Instagram, c'est dispo 24 heures. On sait que dans 24 heures, ça disparaît. Et donc, il y a un peu cette peur de ne pas voir ce qu'il y a derrière. Il y a pas mal d'exemples comme ça, de systèmes de notification et tout qu'on va creuser. Sandrine, je me tourne vers toi pour essayer de comprendre sur quel mécanisme s'appuient les réseaux sociaux quand ils essaient comme ça de nous garder le plus longtemps possible sur tel ou tel réseau ?
Oui, alors vraiment un des concepts clés pour bien comprendre cette mécanique, c'est les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, bon, c'est un gros mot et peut-être que certains l'ont déjà entendu. En réalité, ce sont des stratégies du cerveau qui ont été mises en place pour prendre des décisions très rapidement et aussi de raisonnement. Dans tout le répertoire des biais cognitifs, à vrai dire, il y a un répertoire qui a été créé, il s'appelle le codex des biais cognitifs. Ils en ont répertorié sur la base des recherches scientifiques 140 et quelques de souvenirs. Alors l'idée n'est pas de tous les mémoriser, mais en réalité, les designers, les concepteurs de contenu vont pouvoir aller piocher parmi ces biais cognitifs pour justement aller stimuler des mécanismes du cerveau. Et alors, dans ces mécanismes du cerveau, il y en a beaucoup aussi, mais globalement, on peut en cibler quelques-uns. Les émotions, on en entend beaucoup parler. Donc évidemment, les émotions, c'est un des premiers leviers les plus utilisés, mais pas que. Dans l'attention, il y a aussi plusieurs mécaniques, notamment deux grands circuits. L'un d'entre eux va notamment miser sur les émotions.
Les émotions, ouais.
Et les effets de surprise, qui est aussi une émotion. Le deuxième grand mécanisme de l'attention, c'est tout ce qui va consister à guider notre attention visuelle. Ça va avoir un énorme impact sur notre capacité à rester concentré. Okay. Donc, il y a en réalité deux mécaniques. Premièrement, on capte l'attention par des éléments forts, les émotions, les effets de surprise. Et dans un deuxième temps, il faut arriver à maintenir l'attention et à la diriger sur certains éléments. Et là, les plateformes qui sont une interface très visuelle, interactive, mais d'abord et avant tout visuelle et sonore, ça, ce sont vraiment des éléments sur lesquels on va pouvoir travailler pour capter et guider l'attention.
C'est super clair. Pour comprendre un petit peu, dans un cas précis, est-ce que tu as un exemple ? Le cas, par exemple, des notifications, c'est ce qui revient assez souvent. C'est le fait que si j'ouvre là tout de suite Instagram, enfin, on est assez suivi, donc forcément, on aura des notifs, mais si tu vas sur... si toi, tu as un compte Instagram où tu es suivi par tes amis... que tu vas sur cet onglet de notification, sur quoi ça repose là ? C'est la notion de surprise, d'avoir ou non, d'émotion, si des gens te like, sur quoi ça joue ?
Les notifications, c'est un très très bon exemple. Moi, je dirais que ça repose essentiellement sur deux mécaniques. D'une part, capter l'attention, c'est un peu celui dont j'étais en train de parler, avec potentiellement l'effet des émotions, mais c'est surtout cet effet d'avoir un événement dans l'environnement qui va arriver de manière soudaine. Autant on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Donc en gros, on est un peu saisi par surprise. Tu vois, donc déjà, tu as un élément dans l'environnement qui arrive et qui va stimuler un circuit du cerveau qui est là pour ça. C'est un petit peu comme si tu étais hyper concentré constamment sur ton environnement pour pas louper cette notification. Tu vois, le deuxième élément, c'est l'habituation. En réalité, on est déjà très familier avec ces notifications sonores. Ça répond à un bruit qu'on connaît bien, c'est toujours le même.
Ouais.
Pareil pour la notification visuelle. C'est toujours un petit peu le même message qui apparaît dans les mêmes couleurs. Donc en réalité, on est habitué et c'est un peu comme un apprentissage, presque comme un conditionnement où on a appris que dès qu'on a ce type d'information auquel on est très familier, on va avoir systématiquement, automatiquement même, une réponse qui va consister à aller appuyer et à aller chercher l'information croustillante.
Il y a aussi une dimension moi, qui me semble importante, ou moi que je vois dans mon cas personnel, mais il y a aussi cette notion d'aléatoire dans au final, typiquement on parle des notifications, si j'ouvre Twitter, si je refresh ce que je vais avoir dessus, il y a une notion de est-ce que je vais avoir quelque chose ou pas, si j'ai des likes, combien je vais en avoir, si j'en ai pas, combien j'en ai, enfin voilà.
Ouais, ouais.
C'est cette mécanisme aussi d'attente et de récompense derrière qui peut jouer,
ouais,
jouer aussi.
Et là c'est un tout petit peu plus vicieux en réalité, parce qu'on rentre dans des circuits du cerveau qui sont un tout petit peu plus élaborés. Ce qui se passe avec ces phénomènes aléatoires, en réalité, ce que j'étais en train de t'expliquer là, tu vois, on a appris à répondre systématiquement aux mêmes types de stimuli, hein, les mêmes événements dans l'environnement, de manière répétée. Or, la répétition, on s'en lasse, tu vois. Donc, c'est là où il faut monter dans un niveau un tout petit peu plus élaboré. On met de l'aléatoire et là, en gros, on va être vraiment en train de stimuler des réseaux qui sont un tout petit peu plus élaborés et qui consistent à commencer à construire un modèle sur l'environnement, d'essayer d'avoir un contrôle. En gros, on va raisonner de qu'est-ce qui se passe, comment je peux contrôler cet environnement. Et là, tu faisais en fait référence à une expérience chez la souris, qui pourtant a un cerveau relativement réduit par rapport au nôtre. Ouais. Ces stratégies vont être très simples, mais elle met quand même en place des stratégies. C'est une expérience en réalité où il montrait que lorsqu'on met une souris face à un levier qu'elle actionne pour avoir systématiquement une récompense, ben elle apprend à actionner le levier. Là, c'est typiquement la notification. On appuie et on a une récompense qui est en fait d'avoir une information plus ou moins intéressante. Quand tu introduis de l'aléatoire, tu vas commencer à avoir des stratégies un tout petit peu plus élaborées, déjà d'aller vérifier un peu plus constamment est-ce qu'il se passe quelque chose, et puis d'avoir en gros des hypothèses, tu vois, sur quand arrivent
est-ce
les informations.
Ouais.
Et tu vas aller chercher à aller tester ces hypothèses. Donc du coup, tu vas être un peu plus actif. Mais là, ton modèle, ta stratégie, ton niveau d'élaboration, ça dépend beaucoup de chacun, en réalité.
Donc, ce qu'on voit, c'est que ça joue très clairement sur des biais cognitifs, comme on les évoquait, et il y a une influence, il y a un impact sur notre cerveau qui est assez évident. C'est quelque chose aussi que tu observes, que tu as eu l'occasion d'observer, qui est voulu, il faut le dire aussi, par les plateformes en tant que telles.
Moi, j'ai envie de dire, un réseau social, c'est un casino virtuel. Donc, et pour reprendre ce qu'a dit Sandrine, je pense qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y en a un premier, ça fonctionne sur des mécanismes vraiment de récompense immédiate. Comme dans le casino, la machine à sous, c'est un truc, on tire, il y a un résultat immédiat, mais en même temps un peu aléatoire, donc la curiosité nous fait avancer. Il y a un deuxième truc qui est proche du casino, c'est il y a une saturation d'informations qui nous étourdit un peu. Il y a une troisième chose, c'est un environnement, mais un environnement qui est fait pour nous égarer. Quand vous allez dans les casinos de Las Vegas, vous ne savez plus où vous êtes, vous perdez, et au bout d'un moment, vous savez même plus ce que vous êtes venu y faire, donc vous êtes dedans, vous perdez un peu votre libre arbitre. Et le réseau social, il est vraiment conçu pour ça. Mais il est conçu pour ça pour une raison très simple, c'est que plus vous y restez, d'une part, plus vous êtes présent, donc plus vous êtes enregistré, plus on capte des données, et plus le réseau capte des données, plus il pourra les revendre, et plus vous y restez, plus il y a une chance que vous interagissiez avec une des multiples machines à sous du réseau. Et plus vous interagissez, plus vous faites fonctionner le réseau. Donc, c'est vraiment le double effet qui se coule.
C'est ce qui fait d'ailleurs peut-être aussi que parfois, on se retrouve à ouvrir je ne sais quel réseau social ou même son téléphone de base et dire « Attends, mais qu'est-ce que je faisais dessus de base ? Pourquoi est-ce que j'étais venu dessus ?» Au bout d'une demi-heure, alors que tu étais censé juste vérifier une information au départ, c'est quelque chose d'assez présent. Et si je prends le cas de mon cas précis et personnel, je sais que parfois, j'ai ce réflexe quand j'ai 5 minutes en attendant le métro ou je ne sais quoi, d'aller sur Twitter, mais d'ouvrir Twitter sans même savoir que j'ouvre Twitter et même parfois de le quitter sans même réaliser et sans avoir regardé quoi que ce soit. C'est quoi ? C'est le summum de ce truc-là ? C'est j'ai ce réflexe, comme que certains pourraient avoir le réflexe, je sais pas, d'allumer une clope ou quoi, mais juste d'ouvrir Twitter parce que j'ai pris cette habitude-là de le faire.
J'ai envie de dire l'analogie avec la clope, c'est très bien parce que la clope, en fait, c'est une drogue qui fonctionne que sur la satisfaction du manque. Il n'y a pas d'autre satisfaction que le fait de plus être en manque. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a un peu ce qu'il y a là-dedans aussi, c'est que comme les réseaux sociaux et autres nous font un peu perdre l'habitude de nous concentrer, on a très vite un sentiment de vide. On n'arrive plus à maintenir notre attention suffisamment longtemps pour faire naître nous-mêmes des pensées, des émotions riches. Donc, on a besoin d'une alimentation extérieure. Et donc, on la prend là où on sait qu'on va la trouver.
Elle est bien présente. C'est une réaction aussi d'Alice DJD et beaucoup d'ailleurs qui parlent de Bruno Patino qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'économie de l'attention. Il a écrit un livre là-dessus notamment. Et Alice qui dit hyper intéressant d'écouter aussi Bruno Patino sur le sujet qui raconte qu'il y a plus de 10 ans, au début des mobiles et notifications, les grands médias n'en voyaient qu'une notif maximum par semaine. Ils avaient peur de trop nous solliciter. Lol, une autre époque. Effectivement, c'est quelque chose qui a pas mal évolué aujourd'hui.
Alors, si je peux dire une chose, parce que l'énorme masse des notifs commence à être petit à petit régulée. Une partie des grands réseaux commence à eux-mêmes mettre en place des mécanismes qui vont les contrôler. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu perfide là-dedans. Parce qu'on passe, en fait, d'une manière d'être influencé à une autre. On va dire, avec les notifs, c'était vraiment c'est le mode casino. Maintenant, on commence à pouvoir programmer les interfaces de telle manière que ça va plutôt nous dire « Ah, ben, c'est l'heure d'aller se coucher. Ah, ben, c'est l'heure de faire vos 20 pompes. » Donc, le réseau social, entre guillemets, nous envoie des notifs personnalisés pour notre santé, mais ce n'est pas pour autant qu'on garde notre autonomie. Et j'ai envie de dire, on pourrait presque faire l'analogie, c'est comme si les trafiquants de drogue étaient en même temps ceux qui proposaient les cures de désintoxication. Là, le réseau social, il s'organise lui-même de telle manière qu'il va nous aider aussi à nous, sinon nous désintoxiquer, du moins de faire que ça se passe le mieux possible.
Ouais. Tu voulais réagir là-dessus. Bruno Patino parle notamment il fait le parallèle avec un poisson rouge dans notre façon de gérer notre attention. C'est quelque chose qui te parle comme parallèle. Comment est-ce que tu vois tout ça de ton côté?
Oui, alors l'analogie avec le poisson rouge, bon, elle fait référence à cette capacité à soutenir l'attention, mais aussi et surtout à la mémoire du poisson rouge. Ouais. Et du coup, l'impact que ça peut avoir sur la mémoire. Donc, effectivement, ça parle beaucoup parce que lorsque l'on est sur un flux constant d'informations, comme Florian était en train de l'évoquer, en gros, c'est une espèce d'hyperboulimie de l'information. On en ingurgite énormément, ça va avoir un impact sur le fait que la manière que l'on traite cette information, elle est extrêmement superficielle. Et du coup, on ne va pas se donner les moyens, en quelque sorte, on ne va pas actionner notre cerveau de telle sorte à pouvoir mémoriser ces informations. En gros, on peut faire l'expérience très facilement. Hein. On prend n'importe quel réseau social, on commence à scroller, à regarder plein de petites vidéos, ne serait-ce que 15 minutes. Au bout de 15 minutes, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a vu ? Et très, très peu de choses. Ouais. En réalité, éventuellement, l'intro d'une vidéo, la toute fin, surtout si on a fait une action, de partager, de liker, ça va un petit peu plus ancrer en mémoire, mais en gros, tout ce qui s'est passé au milieu, tous les argumentaires un petit peu plus élaborés, on les a oubliés. Du coup, on fait aussi beaucoup d'économies là-dessus.
Ce que je trouve par ailleurs assez passionnant, c'est la façon et la vitesse à laquelle certains réseaux sociaux, certaines plateformes peuvent émerger et s'ancrer dans notre quotidien. Je m'inclus complètement dedans en très peu de temps. Je pense que le plus choquant pour moi là-dessus, c'était le cas de TikTok en l'espace de 2 ans, qui est devenu un réseau social. J'ai plus les stats en tête, j'ai pas les chiffres là sur mes fiches, mais qui est devenu en très peu de temps, 2-3 ans, un réseau social majeur, si ce n'est le réseau social majeur chez ma génération et les plus jeunes, avec beaucoup de gens qui passent aujourd'hui 1 heure, 2 heures, beaucoup de temps par jour dessus, sans même d'ailleurs s'en rendre compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un réseau social comme TikTok, il y a un petit peu ce mécanisme de like, etc., mais pas tant que ça, parce qu'au final, on a beaucoup de gens qui ont une consommation assez passive, ils regardent les contenus défiler. J'ai le sentiment que c'est un réseau social qui repose sur un autre aspect qui est plus l'aspect de personnalisation du contenu qui vient avoir quelque chose de très important et qui capte du coup notre attention parce que ça nous intéresse et ce réseau nous connaît bien. C'est un autre aspect qui est majeur dans l'économie de l'attention, cette dimension de personnalisation.
Déjà, il y a 2 choses. C'est que tous les réseaux sociaux se développent extrêmement vite, presque par principe, parce que c'est des types de marchés sur lesquels il ne peut y en avoir qu'un. Il y a le gagnant et il n'y a pas de second. Ouais. Donc, entre guillemets, on se développe, on grandit, on capture les utilisateurs et après, on voit de quelle manière on va essayer de gagner de l'argent. Alors, la personnalisation, c'est là depuis assez longtemps. C'est aussi déjà là, entre guillemets, proposition de valeur de réseaux comme Facebook. C'est le fait de nous envoyer des notifications, des contenus qui sont adaptés à nous. Et c'est un des effets qui est très, très ambigu parce qu'à la fois, ça fait partie de ce qu'on aime aussi. On dit que ça nous enferme, mais ça nous enferme plus ou moins, mais en même temps, ça nous aide aussi à avancer dans ce qu'on aime bien. Mais seulement, d'une part, ça nous enferme dans une forme de bulle de confort qui finalement finit par peut limiter notre curiosité. Et puis, il y a tous les faits, du point de vue idéologique, du point de vue des rencontres avec les personnes, il y a tous les effets que ça nous renforce dans certaines opinions, ça nous renforce dans certaines visions du monde. On étudie depuis plusieurs années maintenant l'effet de ces réseaux sociaux sur la polarisation de la société. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que ces réseaux ont contribué à ce que la société soit plus polarisée qu'avant ? Ce qui ressort de plus en plus, c'est pas forcément du point de vue idéologique, c'est-à-dire les gens ont des idées tout aussi divergentes maintenant qu'il y a 20 ans, mais en revanche, les gens qui ont des idées divergentes maintenant ne se supportent plus. Parce que, d'une part, ça me montre tout le temps les idées des gens que j'aime pas. Donc, au bout d'un moment, ce qui était de l'indifférence devient de la haine. Et d'autre part, ça me montre tout le temps les idées des gens que j'aime. Donc, au bout d'un moment, il y a un effet grégaire qui se crée.
Ouais.
Et puis, en plus, il y a aussi des effets de loupe. Parce que vous allez avoir des communautés qui n'ont pas une très grande importance, mais ça va immerger de telle façon que je vais avoir l'impression qu'elles ont une importance beaucoup plus grande que la réalité.
Ouais.
Mais là encore, ça peut avoir des avantages aussi. Ça a aidé des groupes, des minorités à prendre des contacts, à créer vraiment des communautés actives.
Ouais.
Mais simplement, tel que le modèle économique est fait pour le moment, ça joue sur les aspects les plus nocifs, entre guillemets, parce que ça joue sur la réactivité avant tout.
Mmh.
La réactivité et pas forcément la réflexivité.
On parle des conséquences de l'économie de l'attention. Forcément, la conséquence directe qu'on imagine, c'est notre attention qui est prise, parfois pas forcément pour les bonnes choses, et ça, on l'a bien entendu. Donc, il y a une conséquence sur notre temps disponible, justement, ou indisponible, puisqu'on le passe dessus. Il y a une question, justement, de Baba Stage, là, qui dit « Quelles sont les séquelles à long terme de cette addiction aux réseaux sociaux qui peuvent venir ? Est-ce qu'on observe, au-delà de cette perte potentielle de temps, d'autres éléments, d'autres conséquences au quotidien, sur le sommeil, sur d'autres choses ?
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il commence à avoir une description. En réalité, ça ne commence pas à ça. S'il y a presque 10 ans qu'on a commencé à reporter des symptômes qui peuvent être liés à une surconsommation de ce type de plateforme et des réseaux sociaux, celui qui est le plus connu, ou en tout cas où il y a le plus de contenu qui a été proposé, c'est le symptôme de la nomophobie, c'est-à-dire la contraction de no mobile phobia, c'est-à-dire la phobie de ne pas avoir le portable. Donc c'est en gros tous les phénomènes d'angoisse lorsque soit on a oublié le portable, soit on est à court de batterie et avec la peur qu'il s'éteigne et qu'on ne puisse plus l'utiliser. Donc à cette nomophobie commence à être associée effectivement toute une liste de symptômes qui se rapprochent de pathologies plus connues et clairement identifiées et qui font partie de la nomenclature des maladies mentales. Or, on n'y est pas encore du tout. Hein. Mmh. Ça n'a pas été encore du tout reconnu par les experts comme une maladie mentale à part entière. En revanche, c'est vrai que dans certaines symptomatologies, ça commence à s'apparenter à ce qu'on a catégorisé comme une phobie, la phobie d'un objet, mais là, ce serait plutôt la phobie du manque de l'objet. Et il y a des cas un petit peu extrêmes où on voit qu'effectivement, c'est pour certaines personnes, ils peuvent développer certains symptômes qui se rapprochent à des phobies, du type des réactions de stress et d'anxiété accrues, en dehors du fait d'oublier son téléphone. Ça commence à se généraliser à d'autres situations. C'est là où ça peut commencer à devenir un petit peu inquiétant et surtout compromettant en fait, pour l'adaptation des comportements au jour le jour. Plus d'autres problématiques aussi sur la qualité du sommeil. Effectivement, on pourra peut-être y revenir. Les troubles alimentaires aussi qui peuvent être associés. Et surtout, au niveau des relations relationnelles et sociales, où on voit que c'est associé à une diminution de l'estime de soi et une diminution des interactions, de la qualité des interactions avec son entourage.
Bon, tout ça n'est pas très joyeux, mais on voit du coup les conséquences que ça peut avoir. Mais je me permets du coup, parce qu'il nous reste quelques minutes, de se pencher aussi sur les solutions potentielles, puisqu'on a quelques minutes pour le faire. Et si on peut distinguer ça en deux grandes parties, il y a les solutions à l'échelle personnelle, individuelle, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se détacher de cette addiction et de cette économie de l'attention d'une façon ou d'une autre. Et il y a aussi les solutions davantage à l'échelle éventuellement d'État, d'organisation ou autre pour réguler tout ça. Peut-être pour te poser la première question à l'échelle personnelle, Sandrine, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour se détacher si on peut de tout ça.
J'entends, et l'idée c'est qu'on a eu un discours un petit peu anxiogène en l'occurrence.
C'est le sujet, c'est comme
alors
ça.
Alors qu'en réalité, et c'était bien le principe de départ de toutes ces plateformes, c'est qu'il y avait une approche très optimiste qui allait nous offrir beaucoup d'autres possibilités. Et en effet, il s'agit d'offrir des outils aussi bien au niveau individuel que collectif. Au niveau individuel, pour reprendre l'exemple de TikTok que je connais peu, mais on peut observer déjà des contre-exemples en réalité sur les usages qui, de mon point de vue, sont assez vertueux et permettent de contrebalancer un petit peu tous les comportements dont on vient de parler. Donc, dans les stratégies que l'on peut mettre en place pour commencer à regagner du contrôle, en réalité, c'est de ne pas se laisser porter par le flux de cette information, mais de regagner du contrôle. Donc, d'une part, ralentir, bien entendu. Le fait de ralentir, alors un truc tout con, hein, vraiment le petit tips. On finit une vidéo, on fait littéralement une pause de 10 secondes et on ferme les yeux. Non, mais ça a l'air bête. Mais ça, sur la mémoire, ça joue direct. En fait, on permet au centre de la mémoire de rejouer ce que l'on vient de voir et de renforcer ce que l'on vient de voir. Au lieu de l'oublier directement, on va mieux s'en souvenir. Mon premier levier. Hein.
Ouais.
Fermer les yeux 10 secondes et c'est une vraie discipline. C'est une vraie discipline. C'est dur à faire en réalité. Mais c'est comme la méditation. Au début, c'est dur et après, on s'y fait. Deuxième, si je peux me permettre... Deuxième petite stratégie qui se rapproche du TikTok, des bons usages vertueux que j'ai pu retrouver sur TikTok et qui créent l'effet viral, étrangement. C'est en fait, en gros, tout ce qui tourne autour du projet. Vous voyez, quand on vous propose d'apprendre une petite chorégraphie et, d'en faire quelque chose de viral, quand ça marche, pourquoi ça marche si bien? C'est parce qu'en fait, on a ressorti les gens de leur premier usage. On leur propose un deuxième usage qui va consister à renforcer leur capacité d'apprentissage. Alors, même si c'est un apprentissage basique, une chorégraphie et savoir apprendre un nouveau mouvement... Eh ben, en réalité, ça fait du bien pour le cerveau. Et quand ça fait du bien pour le cerveau, ben, ça nous renforce aussi à revenir dessus. Autre exemple, c'était lorsqu'on essaie de reproduire la photo familiale d'enfance. Hein, c'est devenu viral, ça.
Donc ça
c'était super sympa, super drôle. Mais en réalité, c'est un mini-projet que l'on va faire avec des gens. C'est sympa, c'est simple à faire. Ça nous fait sortir de l'application et on a une bonne... là, typiquement, on est en train de stimuler de manière vertueuse le cerveau.
Et on voit que c'est des mécanismes. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus
Oui, moi, plusieurs choses. Déjà, la première, c'est... Je me méfie toujours de ce qui est trop individuel. Déjà, parce que ces réseaux ont quand même cette tendance à nous ramener un peu sur nous-mêmes. C'est un peu le thème de mon roman aussi, d'ailleurs. C'est des personnages qui sont tous pris dans leurs affects, comme dans une espèce de lessiveuse. Mais néanmoins, on a commencé à étudier un certain nombre de propositions... à la fois individuelle et connective, il y en a une qui pourrait être assez maligne, qui serait de donner droit au paramétrage, c'est-à-dire de laisser vraiment les utilisateurs décider de la manière dont le réseau va fonctionner pour eux. C'est-à-dire combien ils vont avoir de notifications, c'est-à-dire à quel point ce qu'ils vont avoir, ça va être personnalisé, etc. Mais ça pose tout de suite un problème, parce que pour le moment, le fait que ça fonctionne automatiquement, ça les arrange, ça nous arrange. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire... on va vous laisser personnaliser. Il faut demander comment est-ce qu'on va le faire. Parce que à chaque fois que le réseau vous propose pour le moment d'accepter, de dire oui ou non, vous mettez oui à toute vitesse parce que vous avez envie d'avoir votre contenu. Donc, on est en train, il y a des études, par exemple, auprès de la CNIL pour se demander mais à quel moment est-ce qu'on va proposer de paramétrer et sous quelle forme pour que l'utilisateur ne se dise pas « Ah, ce message m'embête », mais se dise « Ah, ben, je vais aller voir de plus près ». C'est la première possibilité. Deuxième possibilité, ça serait d'objectiver un peu ce que font les réseaux en faisant l'équivalent de ce qu'on a fait dans l'alimentation avec le Nutri-Score, en mettant en place un Digiscore qui évaluerait vraiment sur un certain nombre de paramètres entre guillemets, la nocivité ou au contraire la côté positif pour la santé mentale et autres d'un réseau social. Puis après, moi, je pense qu'il faut aussi donner aux utilisateurs la possibilité de s'organiser collectivement. Puis une dernière chose, je pense, qui est vraiment importante, pour rebondir sur ce qui se disait avant. On a tendance à dire que la loi court après la technologie. C'est un problème, d'ailleurs, parce que du coup, la loi est toujours un peu insuffisante et la loi est déjà dans un monde qui est configuré par la technologie. Donc, il faut essayer de créer des lois qui permettent d'orienter la technologie. Pour ça, il y a une chose qui serait vraiment utile, ça serait de mettre en place ce qu'on appelle une protection de l'attention by design. Vous savez que ça existe déjà dans le domaine de la privacité, de ce qu'on appelle la privacité. C'est-à-dire maintenant, on dit pour la confidentialité des données, pour tout ce qui est données personnelles, ce n'est pas simplement nous qui devons pouvoir contrôler nos données, mais ça doit être fait de telle manière que c'est conçu nativement.
Ce que Apple essaie de porter dans leur communication, en tout cas, mais aussi il y a certaines actions, de se dire... ce produit pour que tout le monde comprenne bien est fait de telle façon qu'il est facile à utiliser ou je ne sais quoi, mais aussi il intègre la protection des données dans son fonctionnement général.
Et autant, donc c'est déjà là dans la loi pour la protection des données, justement, même si tout le monde ne le fait pas, mais la protection des données, normalement, ça doit être nativement conçu dans l'architecture. Bah, de la même manière, l'idée, ça serait de réussir finalement à passer que la protection de l'attention, elle soit passée dans l'architecture.
Mais est-ce que, et c'est une question que je poserai ici peut-être pour terminer, sur la faisabilité d'une régulation de ces plateformes-là. On comprend bien que l'économie de l'attention et ces plateformes et ces réseaux sociaux reposent sur des mécanismes qui parfois sont des choses qui peuvent paraître petites, légères, anodines comme ça, un système de notification, un fil infini, et qui de fait, du coup aussi, peuvent paraître parfois difficile à réguler ou interdire. C'est-à-dire que si je caricature un peu le truc, on imagine mal l'Union européenne ou les États-Unis dire en fait maintenant pas de fil infini ou maintenant les notifications oui mais pas de caractère aléatoire à tout ça. Enfin, on a du mal à cerner concrètement comment est-ce qu'on pourrait réguler ça. Est-ce que c'est régulable finalement d'une certaine façon ?
Il y a plusieurs énormes problèmes. Le premier, c'est que pour réguler, il faudrait savoir exactement comment ça se passe. Et pour savoir exactement comment ça se passe, il faudrait avoir accès aux données qui sont en grande partie détenues par les plateformes. Donc la première chose à faire, entre guillemets, ça serait de faire ce qu'on a fait dans le domaine bancaire. C'est de mettre en place un processus qui permette d'aller petit à petit à la transparence pour qu'on sache vraiment, quand vous nous transmettez ces données-là, on est capable de vérifier ce qu'elles valent, on sait ce que vous faites. À partir de là, on est un peu plus sur un pied d'égalité. Après, il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a énormément d'études scientifiques, mais elles ne sont pas correctement synthétisées auprès des décideurs. Là, moi, je travaille sur un projet, mais qui a été monté par un organisme qui s'appelle le Forum international pour l'information et la démocratie, surtout porté par Reporters sans frontières. Donc, le but est de créer une instance qui ferait le travail que fait le GIEC dans le domaine du climat sur ça, c'est-à-dire qui ferait vraiment une synthèse de littérature, mais en lien avec les décideurs, c'est-à-dire pour répondre à leurs besoins, aux questions qu'ils se posent, pour leur montrer vraiment, mais voilà ce que la recherche nous dit et ce qu'on sait, ça éclairerait déjà un peu le champ de la décision collective. Et après, il y a une dernière chose, mais qui découle un peu des deux premières, c'est, en effet, vous parlez de petits effets. Derrière, il y a une question gigantesque. Est-ce que le modèle économique de ces plateformes est viable sans les effets pervers ? Est-ce qu'on peut le réguler à la marge ? Est-ce que c'est simplement quelque chose d'accidentel, ou alors c'est consubstantiel, ou alors ces plateformes sont consubstantiellement basées sur l'exploitation. Et alors là, il faut aller à une épreuve de force un peu plus
On voit que le sujet
radical
est assez lourd. On aurait pu en parler là aussi pendant bien, bien longtemps. On a déjà largement, malheureusement, dépassé le temps qu'on avait prévu pour le sujet, mais sujet absolument passionnant. Merci d'avoir tous les deux.